Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Lievin Mbwinga.
Bonjour et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer à la une de l'actualité. 8e édition d'Expo Béton Félix Tshisekedi tient à son engagement à désenclaver tous les territoires de la RDC. Le chef de l'État a lancé ce message à l'ouverture de ce grand rendez-vous regroupant les acteurs tant publics que privés au centre financier de Kinshasa. Tragédie de la prison de Makala, le chef de l'État en attente et du rétablissement de l'ordre dans cette maison carcérale et des résultats de l'enquête qui devra établir les responsabilités. C'est l'essentiel de la réunion extraordinaire du gouvernement tenue lundi à Lubumbashi sous la présidence de Félix Tshisekedi. Enfin, nous allons découvrir un acteur essentiel dans l'accompagnement juridique et judiciaire des personnes vulnérables à Beni. Il s'agit du coordonnateur de l'Organisation de défense des droits de l'homme, Great Lakes Human Rights Program. Maître Jackson Kisenga est notre invité. Mais d'abord, ce drame survenu au Nord Kivu, 8 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation dans la localité de Maboya, située à 30 km de Beni. L'accident survenu tard dans la soirée de lundi a impliqué un gros camion qui se rendait de la commune rurale d'Oicha à Butembo avec des passagers et des marchandises. Le camion s'est renversé dans un virage au niveau de Mulingo, village sur la route Beni-Butembo. Les nombreux blessés sont pris en charge dans une structure sanitaire proche. Selon la société civile locale, l'ivresse du conducteur serait à l'origine de l'accident. Je le disais en ouverture de ce journal, la 8e édition d'Expo Béton a ouvert ses portes hier mardi au centre financier de Kinshasa. Cet important rendez-vous qui permet à plusieurs entreprises d'exposer leurs produits se déroule sous le thème « Révolution urbaine des solutions durables pour le corridor ouest, Kinshasa et Congo central ». Ce salon réunit les acteurs publics et privés pour échanger et approfondir les réflexions autour de ce thème. Le président Félix Tshisekedi, qui a ouvert ses travaux, réaffirme son engagement à désenclaver tous les territoires afin qu'ils participent au circuit économique national et international, ce qui passe par l'amélioration des infrastructures de transport. On l'écoute dans cet extrait proposé par John Chibwabwa.
Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette 8e édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Une révolution qui transformera durablement Kinshasa et le Congo central et par extension impactera positivement l'ensemble du territoire national. Sur ce, je déclare ouverte la 8e édition d'Expo Béton RDC 2024.
Et puis cette alerte de la chef du bureau de genre, du genre famille enfant dans le territoire de Beni, elle estime que le gouvernement doit soutenir les associations féminines en vue de l'autonomisation des femmes. Elle a en effet fait un constat. Plusieurs activités des associations féminines rencontrent de graves difficultés en raison du manque d'accompagnement technique et financier. Marc Maroufimbo pour d'autres détails.
C'est le cas dans la chefferie de Bachou et dans la commune de Kiondo où les pâtisseries, les champs collectifs, les ateliers de tissage des nattes et autres projets entrepris par les associations féminines sont en difficulté faute d'accompagnement technique et financier. Certains projets ont même dû fermer par manque de soutien. Pour la chef du bureau des genres, famille et enfants dans le territoire de Beni, il est évident que les organisations humanitaires agissant dans la région doivent renforcer les capacités et les dynamismes de ces associations féminines. Elle ajoute que le gouvernement doit les budgétiser. Bernadette Kaindo Mbamuliako qui précise.
Ce sont les partenaires qui pouvaient nous renforcer et nous faire atteindre le territoire, renforcer notre dynamisme, nous renforcer même la capacitation. Évidemment, c'est le gouvernement qui devrait nous budgétiser et aussi nous laisser agir librement et à l'autonomie. Nous pouvons peut-être relier tous les territoires et avoir une base de données fiable, capable de déboucher des plans d'action concrètes pour notre territoire de Beni.
Toutefois, Bernadette Kaindo note un accompagnement des initiatives féminines dans les entités urbaines par certaines organisations humanitaires œuvrant dans le domaine de la protection de la femme et de l'enfant. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
On poursuit ce journal avec cette colère des travailleurs des magasins tenus par des commerçants indo-pakistanais et autres Libanais à Kinshasa. Ils sont en grève depuis lundi. Ils dénoncent notamment les mauvaises conditions de travail. Ils affirment en même temps avoir entamé des démarches auprès des autorités sans que ces dernières ne trouvent une solution à leurs problèmes. Une situation qui dure depuis des années, ajoute-t-il. On écoute Jean Bakayanga, président de l'intersyndicale du secteur de commerce. Il est au micro d'Arcel Kajourou.
Depuis, nous avons écrit au ministre, nous avons déposé un cahier des charges il y a 15 jours pour revendiquer 3 points. Compliquer les maisons de placement, qu'on appelle les SPP, qui ne facturent plus les prêts de la main d'œuvre, qu'on appelle la sous-traitante. Le deuxième point est relatif au paiement des SPIP. Les personnels sont payés à un taux de 1400 francs, alors que le dollar est à 26. Le troisième point, c'est question de l'erreur du travail. Les travailleurs sont réduits à des simples esclaves. Et ces problèmes sont récurrents chaque année. C'est ainsi que nous avons vu le président de la République il y a 5 ans. Tous les ministres se sont succédés au sein du ministère du Travail n'ont pas trouvé une solution à ces simples travailleurs. C'est pourquoi les travailleurs ont demandé ces jours de voir au moins la première ministre avec le ministre de la Justice qui puisse prendre à bras le corps ce problème ici, pour que les travailleurs puissent trouver gain de cause. Quel sera le gain de cause qu'on puisse mettre à la pire forme de la sous-traitance, qu'on puisse payer au taux du jour l'indexation du salaire, qu'on puisse harmoniser les problèmes de l'horaire du travail.
Jusqu'ici, nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des employeurs ni celle des autorités, donc un dossier à suivre. Évacuation des produits agricoles du territoire d'Idiofa vers les grands centres de consommation, mission impossible pour les agriculteurs. Et pour cause, toutes les routes de desserte agricole de cette partie de la province du Kwilu sont dans un état de délabrement très avancé. La société civile locale qui le dit déplore aussi le mauvais état de la route principale qui relie le chef-lieu de ce territoire à la ville de Kikwit en allant vers Kinshasa. Son président, Jean-Marie Bell, se plaide auprès du gouvernement central pour la réhabilitation de ces routes d'intérêt économique capital. Il est au micro d'Irène Mboma.
La route d'Idiofa à partir de la jonction avec la route numéro 1, c'est très très déplorable en ce que elle n'a plus jamais été travaillée. Un véhicule, autrefois, pouvait faire 2 heures de temps, tout au plus 3 heures. Aujourd'hui, vous pouvez faire toute une journée pour atteindre Idiofa ou pour partir de Idiofa pour Kikwit. C'est à 45 km d'Idiofa. Les motards ou les conducteurs ne peuvent pas être à l'aise. Ils doivent souffrir. Donc l'état de la route est très, très déplorable. Surtout quand il va encore pleuvoir, Mamanangaï. Ça sera terrible. Et je glisse aussi un mot, il n'y a pas que la route, la voie principale. Toutes les voies de desserte agricole n'existent plus. Il y a des enfants, peut-être 5 ans, qui n'ont jamais vu un véhicule. Il y en a qui arrivent pour la première fois, ils fouillent. Quand ils voient, c'est quelle machine ça? Alors nous demandons au gouvernement qu'il s'occupe, parce qu'il dit, c'est un grigné. Les produits comme les ananas, du manioc, arachides, les voanzos, les pondos, tous les autres, ça part d'Idiofa. Ça peut nourrir la ville de Kinshasa. Mais quand on est bloqué, tout cela ne peut pas arriver. C'est pourquoi il y a hausse des prix.
La présence des groupes armés, les conflits fonciers permanents dans le territoire de Lubero, un véritable obstacle pour les activités entrepreneuriales des éleveurs locaux et des agriculteurs, affirme ce dernier. Tenez, certains d'entre eux sont obligés d'abandonner leurs champs suite à la menace des assaillants. D'autres victimes de divers conflits fonciers enregistrent des pertes énormes dans leurs installations. Plusieurs agriculteurs parlent de léthargie des pouvoirs publics qui se manifestent par une absence de l'autorité de l'État à Lubero. Ils en appellent ainsi à la restauration de l'autorité de l'État dans cette région. Le point avec Denise Loukesso.
Beaucoup de fermiers aujourd'hui dans les territoires de l'Oubéro ont fermé leur pâturage, tout comme certains agriculteurs aussi, également abandonné leur zone agricole suite à l'insécurité qui prévaut. Certains fermiers qui résistent sont soumis au paiement des taxes illégales par les groupes armés. Une situation qui plonge l'élevage et l'agriculture à la baisse. Alors que la région de l'Oubéro était réputée autrefois zone florissante en élevage et agriculture. Ndungo Manzeke-Lebosco, gérant de l'entreprise agricole Tsitsanga Farm MS, une des entreprises victimes qui a fermé ses portes une année bientôt.
Tous les élevages sont abattus, les bêtes sont consommées et surtout que on ne permet pas aux exploitants de fréquenter leurs champs. Et c'est ce qui fait que tous les fermes sont en faillite. Et avoir de près, vous constaterez avec moi que tous les bêtes vendues sur le marché en territoire de l'Oubéro et Béni sont importées, alors que c'est une zone où l'élevage, l'agriculture était vraiment florissante. Maintenant, vraiment, on ne sait plus comment évoluer dans l'entrepreneuriat agricole.
Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé lundi la réunion extraordinaire du Conseil des ministres ici à Kinshasa. Parmi les questions évoquées par le président de la République, à en croire la ministre de la Culture qui en faisait le compte rendu, il y a celle relative au drame survenu à la prison de Makala à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Tout en déplorant les pertes en vies humaines enregistrées au cours de ce drame, Félix Tshisekedi demande au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et au ministre d'État en charge de la justice de tout faire pour rétablir l'ordre dans cette maison carcérale. Il attend très prochainement les résultats de l'enquête qui devra établir aussi les responsabilités. D'autres détails avec la ministre en charge de la culture, Yolande Elébé, dans cet extrait choisi par Jean Gando.
N'excluant pas l'hypothèse d'une main noire tendant à saper les efforts du gouvernement, lorsqu'il a été observé une autre tentative maîtrisée à Bounia en date du 7 septembre 2024, le président de la République a recommandé une vigilance accrue de la part de nos forces de défense et de sécurité. Aux membres du gouvernement, il a exigé la discipline et la cohésion en ces termes. Je voudrais par ailleurs souligner, en faisant mienne le rappel à l'ordre de Madame la Première ministre sur ce sujet, que l'action gouvernementale doit être coordonnée et ordonnée. L'individualisme n'est pas un atout. Au contraire, nous payons tous les prix de dérapage populiste individuel. Cet état des choses est inacceptable et ne devrait plus se répéter en matière de gestion de crise, a-t-il précisé. La première ministre a été invitée à y veiller scrupuleusement et à faire respecter cette cohésion.
Les deux ministres précités ont été invités à lancer autour des acteurs du secteur une réflexion sur la possibilité de créer un service national de renseignement pénitentiaire capable d'anticiper et de prévenir de telles tragédies à l'avenir. Ce service aura pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos maisons carcérales. Une première à Butembo, au Nord Kivu, quatre cachots illégalement gérés par les services de renseignement militaire des FARDC, fermés depuis lundi par l'auditeur militaire de garnison. Objectif, lutter contre les abus liés à l'insécurité créée par des militaires. Cette action répond aux plaintes croissantes de la population. Le réseau pour les droits de l'homme, REDO, applaudit cette décision audacieuse. André Kitenge nous apporte des détails de cette importante décision.
Les cachots concernés incluent ceux du bureau T2 secteur, du département de la sécurité aux frontières, de la 34e région militaire ainsi que des sous-axes militaires. Selon le major magistrat Georges Nkoua, les officiers de police judiciaire doivent se concentrer uniquement sur les affaires touchant au renseignement militaire ou à la sécurité nationale et laisser de côté les questions des droits communs. Le réseau pour les droits de l'homme REDO, une organisation basée à Butembo, exprime son soutien total à cette décision. Mouindo Wassivinois est son coordonnateur.
Les REDO encourage l'auditeur militaire des garnisons de Butembo pour avoir décidé à fermer tous ces cachots tenus illégalement par différents services de sécurité militaire à ville de Butembo. Ces cachots étaient utilisés comme instrument d'extorsion et même de torture pour certaines personnes. C'est une bonne chose car la population était extorquée et torturée dans ses amigos.
L'auditeur militaire précise que cette fermeture fait suite aux demandes de sa hiérarchie et aux plaintes de la population. Dorénavant, tous les services seront centralisés dans un seul cachot sous la supervision directe. La prochaine étape consistera à traquer les militaires et agents non autorisés qui opèrent sous couvert des renseignements militaires dans la ville de Butembo, a-t-il ajouté. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Dossier meurtre de trois personnes d'une même famille dans la province de la Tchopo. La justice vient de trancher. 5 personnes sont condamnées à mort et 3 autres acquittées. Ce verdict a été rendu la nuit dernière par le tribunal militaire de garnison de Kisangani dans cette affaire du meurtre de 3 personnes d'une même famille dans la nuit du 25 au 26 août dernier entre les points kilomètres 9 et 10 sur la route de Yangambi.
Actualité internationale.
L'Allemagne va instaurer à partir du 16 septembre des contrôles à l'ensemble de ses frontières terrestres dans le cadre du renforcement de la lutte contre l'immigration illégale et de la protection de la population, a annoncé lundi la ministre de l'Intérieur. Des contrôles avec la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark vont être établis pendant 6 mois à partir du 16 septembre. Ils s'ajouteront aux contrôles déjà en place aux frontières avec la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Suisse.
L'invité.
Notre invité du jour est Maître Jackson Kisenga, le coordonnateur de l'Organisation de défense des droits de l'homme Great Lakes Human Rights Program dans la région de Beni. Avec lui, nous allons parler de l'accompagnement juridique et judiciaire que son organisation a apporté en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la MONUSCO Beni pour la réussite de la formation en coupe et couture destinée aux femmes vulnérables. Maître Jackson Kisenga s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Jackson Kisenga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Votre organisation Great Lakes Human Rights Program fait partie des structures qui ont participé à l'accompagnement et la réussite de la formation de femmes vulnérables grâce au soutien du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la MONUSCO Beni. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette formation?
Et pour nous, l'encadrement de ces femmes, c'est un aboutissement. C'est le résultat, n'est-ce pas, d'un travail de longue haleine, parce que c'était quelque chose qui n'a pas été au rendez-vous depuis longtemps. Nous avons été avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons assisté, accompagné, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies, plus d'une dizaine de victimes. Mais nous avons aussi plaidé à ce qu'on aboutisse par une réinsertion socio-économique pour aboutir à ce qu'on appelle l'autonomisation et la dignité de la femme et de la jeune fille dans la zone de Beni en général. Mais aujourd'hui, si on a cet échantillon de cette équipe, de la première équipe qui vient de bénéficier de cette formation en coupe couture pour apporter le pouvoir financier ou bien arriver à ce que la femme soit autonomisée et elle reçoive un pouvoir, n'est-ce pas? Pour nous, c'est un succès. Et nous sommes très, très, très contents et nous remercions encore notre partenaire, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour l'appui qu'il a apporté à cette catégorie de personnes.
Concrètement, sur les plans techniques et pratiques, quel a été votre apport, vous, Great Lakes Human Rights Program?
Pour essayer un peu de vous expliquer, la prise en charge, et c'est une prise en charge holistique. La prise en charge holistique, elle porte par une prise en charge médicale, qui est la porte d'entrée. Il y a la prise en charge psychosociale. Il y a la prise en charge juridique et judiciaire et il y a le volet réinsertion socio-économique. En fait, c'est dans le cadre de la prise en charge holistique qu'est maintenant ce groupe de femmes que nous appelons des femmes battantes, des survivantes, bénéficient aujourd'hui de cette réinsertion pour, n'est-ce pas, boucler la boucle de ce que nous appelons la prise en charge holistique. Et nous, à notre niveau, nous, en tant que clinique juridique, nous avons été aux côtés de ces groupes dans le cadre d'une prise en charge juridique et judiciaire. Et c'est nous qui restons en contact permanent avec toutes les survivantes quand elle est passée déjà par la médicale, elle est passée déjà par le psychosocial. Mais vous voyez que le volet juridique, c'est un volet qui prend beaucoup de temps et nous sommes en contact permanent avec elle. C'est ainsi que quand il y a eu cette opportunité, le Bureau conjoint des Nations Unies a recouru à notre expertise et nous avons disponibilisé, n'est-ce pas, l'échantillon, les survivantes et, n'est-ce pas, on a sollicité maintenant l'expertise de l'UNPP et qui a facilité maintenant la formation en coupe et couture.
Et étant donné que la réinsertion fait aussi partie de vos attributions, comment accompagnerez-vous ces femmes avec les outils de travail qui leur ont été remis aujourd'hui par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme de la MONUSCO à Beni?
On n'a pas vraiment une expérience pour prévoir une vulnérabilité, pour prévoir une violation. C'est quelque chose qui vient d'une manière spontanée. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est notre disponibilité et notre expertise. Être là et apporter la réponse à qui veut avoir la réponse. Nous serons d'abord, dans un premier temps, à côté d'eux pour essayer encore de les accompagner davantage. Parce que avoir la formation, c'est une chose. Être doté d'un kit, c'est une chose. Mais aussi pratiquer, n'est-ce pas? Mettre en pratique ce qu'on a appris, c'est encore une autre chose. Et ça demande un certain accompagnement, une certaine période de suivi. C'est ainsi que nous, on sera à côté d'eux pour les suivre, pour essayer de comprendre comment ils sont en train de pérenniser ce qu'ils ont appris et comment ils sont en train de matérialiser et d'utiliser les kits qu'ils ont reçus comme dotation.
Maître Jackson Kisenga, merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
C'est la fin de ce journal. Merci à Pele Kipela Mondo, à Junior Kamunga et à Polydor Basunga.